8 milliards de voisins, c'est maintenant.
8 milliards de voisins avec Laurence Garcia.
Bonjour et bienvenue à vous les voisins et les voisines. En cette journée internationale des droits des femmes, on va parler d'un sujet ô combien tabou, l'argent et le patrimoine dans les couples et les familles. En cas de mariage, divorce ou héritage, on va sortir les calculettes et voir que les grandes perdantes sur le plan financier sont souvent les femmes. Alors qu'en France, le Code civil garantit un partage de la succession équitable, sans distinction de sexe ou de rang dans la fratrie, pourquoi ce sont le plus souvent les fils aînés qui héritent au détriment des filles. Bref, pourquoi les familles reproduisent les inégalités économiques de genre comme dans le monde du travail? Le capital serait-il genré? On en parle avec vous qui nous écoutez et nos invités. Bonjour, c'est Sybille Golac.
Bonjour.
C'est vous qui nous avez inspiré ce sujet. Vous êtes sociologue, chercheuse au CNRS, co-autrice avec la dessinatrice Jeanne Puchol de la BD Le genre du capital. Comment la famille reproduit les inégalités? C'est aux éditions La Découverte Delcourt. Une BD qui était adapté de votre livre Enquête, du même nom que vous aviez donc signé avec Céline Bessière. Là, le choix de la BD, c'est pas totalement anodin?
Le choix de la BD, il est destiné à faire connaître ce qu'on explique dans le livre, notamment que, contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas des progrès linéaires vers l'égalité femmes-hommes du point de vue de l'économie, puisque les inégalités de patrimoine se creusent en France. Et ces réalités-là, on voulait les faire connaître au public le plus large possible. Et la BD, c'était l'occasion de toucher les plus jeunes et ceux qui ont moins de temps aussi, parce que ça va plus vite à lire.
C'est ça, avec des chats de gouttière, des félins qui, dialoguent sur nos problèmes à nous d'argent et de femmes. Dans une vingtaine de minutes, nous serons en ligne avec Betty Missika. C'est la chef de la division des réseaux, des partenariats et de l'égalité des genres au centre de développement de l'OCDE. Et puis, nous serons également en ligne avec Amira Souillem, notre correspondante à Tunis. Là-bas, vous verrez, les femmes héritent deux fois moins que les hommes. Et en fin d'émission, on parle de She's Not Your Rehab. C'est un mouvement néo-zélandais qui lutte contre les violences faites aux femmes en misant notamment sur la prévention auprès des hommes. Un sujet signé Charlie Dupiot. Bienvenue à vous.
RFI.
8 milliards de voisins.
Bonjour RFI.
J'adore l'émission.
Je suis RFI 77.
Nous sommes ensemble. Et nous devons marcher ensemble.
Madame, dans quelques instants, tout va changer. Vous étiez seule, vous allez être deux. Vous étiez libre, vous allez avoir un mari. Un mari tout puissant. Un mari à qui vous devrez obéissance. Un projet de réforme sur les régimes matrimoniaux sera présenté à l'Assemblée nationale tendant à faire de vous l'égal de l'homme.
Madame. Je voudrais ouvrir un compte en banque. Que faut-il que je fasse?
Bien, madame, il faudrait que vous nous présentiez une carte d'identité et une autorisation maritale, à moins que vous soyez femme séparée.
Sachez que cette autorisation ne sera plus nécessaire et que le nouveau régime matrimonial permettra aux épouses d'ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de leur conjoint.
Parce que maintenant, les femmes sont capitaines d'industrie, enfin, les femmes tiennent presque le rôle de l'homme, et moi, je trouve que l'égalité est très bien.
J'estime que l'homme doit être supérieur à la femme, à tout point de vue. Je trouve que l'homme est supérieur et je trouve qu'il doit dominer la femme.
Nous sommes au XXe siècle, et il me semble que la femme, on a acquis le droit à une égalité avec l'homme.
C'est normal qu'il y ait une égalité entre l'homme et la femme, quoi, parce que la femme travaille beaucoup plus que l'homme, puisqu'en fait, elle travaille à l'extérieur. Quoi. Alors c'est normal même que l'homme l'aide à la maison aussi également.
Voilà, une archive qui date de 1965, au moment de la loi de réforme des régimes matrimoniaux qui autorise enfin en France toutes les femmes à marier, à travailler, à ouvrir un compte en banque, à signer des chèques sans l'autorisation de leur mari, ce qui veut dire que jusqu'alors elles avaient un statut de mineure. Ça semble loin, mais c'est pas si loin, 1965.
Alors c'est pas si loin, et d'autant plus que la loi de 1965 n'établit pas une égalité complète des femmes et des hommes dans le mariage. Il faut attendre 85 en réalité, pour que les femmes soient gestionnaires du patrimoine commun au même titre que les hommes et qu'il n'y ait plus de distinction dans le droit entre l'époux et l'épouse en ce qui concerne la gestion des biens du couple. Donc en France, l'égalité dans le couple en matière de gestion de l'argent, de la richesse, elle est vraiment très récente.
Alors vous, vous êtes sociologue. Comment vous expliquez que les économistes, quelque part, se sont peu intéressés aux inégalités de patrimoine selon le genre ?
Alors, c'est pour des raisons très pratiques, hein, puisque les économistes, en particulier les économistes féministes, ont beaucoup travaillé sur les inégalités de revenus, les inégalités de salaire, hein, ont essayé d'explorer à quel point elles étaient liées au temps de travail, aux différents secteurs d'activité dans lesquels travaillaient les femmes et les hommes, aux interruptions de carrière pour les femmes. Mais en ce qui concerne le patrimoine, les données, par exemple, qu'a construit Thomas Piketty, qui a montré l'augmentation des inégalités de patrimoine très fortes entre familles ces dernières années, elle s'appuie sur des données qui sont des données par ménage. Donc que ce soit des données à partir d'enquêtes par questionnaire, on va interroger les gens sur ce que leur ménage possède, ou des données fiscales, où là c'est le foyer fiscal qui est l'unité de mesure. Donc pour comprendre ce qui se passe en particulier dans les couples de sexes différents, là il faut rentrer vraiment dans le détail. Alors heureusement en France on a une enquête, mais c'est une rareté dans le monde en fait. On a une enquête qui nous permet de reconstituer des patrimoines individuels à l'intérieur des couples et qui a permis donc notamment à Nicolas Frémaux et Marion Le Turc de montrer qu'entre 1998 et 2015, les inégalités de patrimoine étaient passées de 9% à 16%. Donc elles ont presque doublé en moins de 20 ans. Il y a des données similaires en Allemagne, mais sinon partout ailleurs dans le monde, on n'arrive pas pour l'instant à mesurer ces inégalités.
Ouais, d'où le travail de longue haleine que vous avez mené forcément durant 20 ans, on peut le dire. Vous avez enquêté auprès des professionnels de droit, les notaires, etc. Mais ça, on en reparlera après. Et surtout des familles de toutes les catégories, toutes les origines sociales.
Alors, on a enquêté effectivement avec Céline Bessière par monographie de famille. Donc, dans des familles, on a rencontré les pères, les mères, les époux, les épouses, les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, les fils et les filles, pour essayer de comprendre un peu les arrangements économiques qui se construisaient dans les familles et qu'est-ce que ça donnait justement en termes d'accumulation, de circulation du patrimoine, qui avait le pouvoir sur la richesse. Donc, parfois, en suivant des familles plus de 10 ans, ces familles, elles sont de milieux sociaux.
Pas compliqué, pardon. D'accoucher la parole, c'est sujet tabou quand même que de parler d'argent, de patrimoine au sein des couples, au sein des familles.
Alors c'est notre métier de sociologue, d'arriver à faire parler les gens. Donc moi je présentais mon enquête, ce qui était sincère aussi, sur les solidarités économiques, parce que la famille, c'est ça qui est très compliqué, c'est que c'est aussi une ressource importante. On est dépendant des membres de notre famille, c'est un appui précieux. Mais c'est du coup un réseau de dépendance économique avec des rapports de pouvoir, des inégalités et qui ne sont pas faciles à dire parfois pour les gens. Donc c'est des entretiens très longs qu'on répète. On approfondit aussi nos relations avec les gens et on espère que la façon dont, à la fin, on essaye de comprendre et d'expliquer ce qui se passe dans ces familles apporte quelque chose aux personnes qu'on a enquêtées et qu'elles trouvent qu'on a traité de façon respectueuse leurs paroles.
D'accord. Donc, des familles de toutes les origines sociales. Alors, on parle aussi forcément contrat de mariage. Et là, vous dites, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens, finalement, qui signent des contrats de mariage sans savoir exactement ce qu'ils signent. En fait, qu'il y a une véritable ignorance aussi juridique, peut-être chez certaines familles ou pas.
Alors ça, c'est quelque chose d'amusant parce qu'en 1965, quand la loi a été votée, il y avait une enquête préalablement menée par Ipsos et par Jean Carbonnier, donc un juriste de la famille connu. Enquête à l'occasion de laquelle on s'était rendu compte qu'effectivement, les gens ne savaient pas du tout ce qu'ils signaient quand ils se mariaient. Mmh. Ils ne connaissaient pas le régime par défaut et généralement, ils avaient une très mauvaise connaissance des options possibles. On peut aller chez le notaire pour signer un contrat de mariage. Nous, dans notre enquête, on a l'impression que c'est toujours un peu le cas. Les gens ne savent pas très bien. Et en fait, donc, les gens qui ne savent pas, ils se marient, mais ils ne savent pas très bien ce à quoi ça engage. Une chose importante aussi, c'est qu'aujourd'hui, donc, en France, il y a 60% des enfants qui naissent hors mariage. Et les gens qui vivent sans se marier ne savent pas très bien non plus ce que ça veut dire. Par exemple, si on explique que quand on est marié, on a le droit à une pension de réversion si votre conjoint décède. Vous aurez le droit à une partie de sa pension de retraite pour vous aider à vivre après le veuvage. Bon, si vous n'êtes pas marié, vous n'y avez absolument pas droit. Et les gens n'ont pas toujours conscience de ces enjeux-là. Et même ceux qui appartiennent à des familles dans lesquelles... parce qu'on a des biens, on a davantage l'habitude de fréquenter des avocats, des notaires, etc. Et qui vont faire un contrat de mariage, par exemple, en séparation de biens, qui est un contrat qui est de plus en plus choisi par les jeunes couples et en particulier dans les milieux favorisés, ils ne savent pas toujours très bien non plus ce que ça veut dire. Ils savent que c'est chacun son argent, mais ils n'ont pas bien conscience de ce qui risque de se passer dans leur couple et qui se passe aujourd'hui dans la majorité des couples, c'est-à-dire une spécialisation genrée du travail et en particulier le fait que les femmes vont moins faire carrière, davantage s'occuper des enfants, des tâches domestiques, et qu'il va y avoir des inégalités de revenus qui vont se creuser, et que sous le régime de la séparation, bien, quand on se sépare, bah, ces inégalités de revenus, elles se traduisent en inégalités de patrimoine.
Bah justement, en parlant de droit, je propose d'écouter le message que nous a laissé Evelyne, qui, elle, est justement, elle est juriste en Côte d'Ivoire.
Bonjour les voisins et les voisines. À mon avis, il n'y a aucun doute que le mariage constitue une protection juridique pour les femmes sur le plan financier. Si je prends le cas de la Côte d'Ivoire, c'est assez fréquent de voir des concubines ou des personnes qui sont mariées en vertu du droit coutumier se faire chasser du domicile conjugal après la mort du conjoint. Et en fait, c'est la famille du défunt qui vient et qui met carrément la femme et ses enfants à la rue. Or, le mariage en tant que concept juridique défini par une loi va conférer des droits à chaque partie, mais bien entendu aussi leur imposer des obligations. Sans mariage, il n'y a aucun lien juridique qui lie un homme à une femme qui obligerait ce monsieur à payer une pension alimentaire à cette femme en cas de séparation. C'est parce qu'il y a eu un mariage au préalable qu'on peut espérer, ou en tout cas qu'on peut déposer une demande devant un juge pour une pension alimentaire en cas de divorce.
Merci beaucoup Evelyne de Côte d'Ivoire. Le contrat de mariage pour se protéger du droit coutumier, du fait que bah voilà, certaines familles peuvent effectivement chasser les concubines à la suite voilà, de la mort du conjoint. On va en reparler de droit coutumier tout à l'heure dans quelques instants. Mais dans l'imagerie collective, le contrat de mariage pour beaucoup de femmes, ça protège.
Alors, ce qui est assez amusant, c'est que dans les années 60, le mariage pour les féministes, c'était une institution patriarcale. Mmh. Pourquoi ? Parce que la plupart des couples étaient mariés, donc c'était synonyme de cette division sexuée du travail, hein, avec la femme qui spécialise dans les tâches domestiques, l'homme qui, lui, va sur le marché du travail et gagne son argent. Et puis surtout, hein, avant 1965, se marier, comme on l'a entendu là dans cette bande audio, pour une femme, c'était renoncer à tout pouvoir, y compris sur son propre argent. Il lui fallait l'autorisation de son mari pour gérer son propre argent qu'elle avait éventuellement acquis avant le mariage. Puis à partir de 65 et de 85, le mariage sous le régime légal, c'est quoi ? C'est la communauté de biens réduite aux acquis. Ça veut dire que tout ce qu'on acquiert pendant le mariage, que ce soit grâce aux revenus de l'homme ou aux revenus de la femme, on le possède 50-50. C'est pour ça qu'en 98, quand je dis à 9% d'écart de patrimoine entre femmes et hommes, c'est nettement inférieur aux écarts de revenus qui sont de 25% en moyenne. Parce que, comme la plupart des couples étaient mariés sous ce régime, bah, c'était un puissant égalisateur des patrimoines. Ce qui est presque paradoxal et qui est une espèce de pied de nez de l'histoire aux femmes en France, c'est que, alors même qu'à partir de 85, elles ont exactement les mêmes droits que les hommes dans le mariage, les gens se marient de moins en moins. Et souvent, c'est au nom de l'autonomie qu'on ne se marie pas ou qu'on se marie sous le régime de la séparation de biens en disant « bah voilà, je suis une femme autonome, je suis autonome de mon conjoint, j'ai pas besoin de ça ». Sauf qu'en réalité, le partage des tâches domestiques, il demeure très inégalitaire. Et ça, en France, hein, on a des enquêtes comme l'enquête emploi du temps qui le documentent très très bien. Les femmes continuent à prendre en charge les deux tiers du travail domestique.
On continue à en parler de ce partage des richesses en famille après Yamé avec Kate sur RFI.
Fini me chante la mélodie et vois que la moula du Katanga. Le chapeau a changé de niveau si bien que tu vois pas qu'on vient d'en bas. Ah. Ba, 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 ba. Ah. Tu passes au log 2, 3, 7 dans le grand lobby. Si tu supportes, ne passe pas les logs. Et en gros, pécan, on haga même avec le down loot. Code négé sur le switch avec ballon plein. J'grandis plus. Ma chaîne des combats de tarot. Il le vois-tu? C'est carré seulement si c'est pas haut. Zéro. Ils comprennent pas c'est quoi ces tarots. Les schémas vont les rendre paro.
pas cassé, viens pas faire le mot là. Ça fait bien longtemps qu'on a compris qu'il fallait bon chat comme un titan. Oh là, m'appelle pas le sang, j'ai capté dans mes projets. Tu passes pas la mi-temps. La petite fait un jeu que je la ouette pour qu'elle se complète. Je la capte comme un téton. Petit, faut pas que je reste. La famille m'appelle, la douleur est présente. Ah mais pourquoi tu quêtes?
Je
suis dans ma quête. Il n'y
a pas de stress.
Tu sais qu'on les blesse. Ouh, ça bégaye en brut. Je parle que le net. Grosse tempête à la Hesse. Baby, moi chante la mélodie.
C'est Yami avec Kate, un titre à retrouver sur la playlist de RFI. Dans 8 milliards de voisins et de voisines, on parle du patrimoine dans les familles et les couples qui profitent davantage aux hommes, aux fils qu'aux épouses et aux filles. Avec notre invitée Sybille Golac, sociologue et co-autrice avec la dessinatrice Jeanne Puchol de la BD Le genre du capital. Comment la famille reproduit les inégalités aux éditions La Découverte Delcourt. Et nous sommes en ligne avec Amira Souilem, la correspondante de RFI à Tunis. Bonjour Amira.
Bonjour et bonjour aux voisins.
Et aux voisines.
Et aux voisines.
Alors Amira, dans les pays arabes et musulmans, la question de l'héritage est loin d'être paritaire. La Tunisie, comment ça se passe en cas de succession? Quelle est la différence de traitement entre les deux sexes et pourquoi?
Alors en Tunisie, les femmes héritent théoriquement moins que leurs frères, deux fois moins très précisément. C'est une disposition qui est inspirée d'un verset coranique qui attribue dans certains cas à la femme la moitié de ce que recevra l'homme. Alors sans faire une exégèse du Coran, il faut savoir que le droit musulman prévoit des règles de succession multiples et variées en fonction de la composition de la famille. Mais de ces règles nuancées et nombreuses, le législateur, et c'est le cas en Tunisie, n'a retenu que celle qui attribue dans certains cas la moitié de la part de l'homme à la femme. Les dispositions qui prônent l'égalité et parfois même une part plus grande pour la femme ne sont pas prises en considération. Donc autant dire que le patriarcat sévit encore en Tunisie, ce qui peut paraître étonnant hein, quand on sait que c'est un pays qui est considéré comme le plus en avance sur les droits des femmes dans le monde arabe justement. Avortement, abolition de la polygamie, divorce, droit de vote, ces droits acquis et défendus par Habib Bourguiba, à peine l'indépendance arrachée, semble désormais insuffisant aux yeux d'une partie des Tunisiennes qui réclament l'égalité dans l'héritage.
Alors justement Amira, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que ça commence à changer?
Alors il y a eu un mouvement de revendication très fort en 2017 et 2018. Cela s'est concrétisé par des manifestations de femmes qui demandaient l'égalité et puis par la mise en place d'une commission qui était chargée de plancher sur cette thématique à la demande du président d'alors, Beji Caïd Essebsi. Un projet de loi même avait été était dans les cartons à ce moment-là. Mais ces espoirs ont été rapidement douchés en 2019 avec l'arrivée au pouvoir du président actuel, Kais Saied, qui lui ne cache pas son opposition à tout changement dans ce dossier. Alors c'est un président qui est conservateur, il a été auparavant assistant de droit et il sait que la société tunisienne, malgré son apparente ouverture, reste opposée à ce changement. En Tunisie d'ailleurs, il n'est pas rare, et ça peut paraître là aussi assez étonnant, de trouver des femmes qui défendent cette inégalité dans l'héritage. Parce que s'y opposer est perçu comme une remise en question des principes coraniques, tant les Tunisiens et les Tunisiennes donc sont persuadés que cette mesure est portée par le livre saint des musulmans, ce qui est beaucoup plus complexe, hein, c'est ce que, voilà, ce que j'ai essayé de vous expliquer plus haut. Alors, aujourd'hui, la Tunisie traverse une crise économique intense et c'est aussi pour ça qu'il faut dire qu'une remise en question de ce principe risquerait de mettre le feu aux poudres et donc personne ne s'y essaye. Et donc, en Tunisie, les hommes continuent d'hériter deux fois plus que leurs sœurs, que les femmes. Face à cette situation, eh bien, on entend de plus en plus parler de certains parents tunisiens qui décident de contourner la législation en léguant de leur vivant la même part aux filles et aux garçons.
Merci beaucoup, Mira Soulem. Je rappelle que vous êtes notre correspondante à Tunis. Sybille Golac, en France, là on parle de la Tunisie, mais en France, ok, le code civil garantit normalement un partage successoral équitable, hein, sans distinction de sexe ou de rang dans la fratrie, mais en réalité, c'est plus complexe que ça. Comment ça se passe ?
En réalité, c'est plus complexe que ça. Et ça, alors, ça fait très longtemps. Hein. Pour le coup, c'est vraiment le code civil de 1804, hein, le premier, Napoléon, qui établit l'égalité entre les héritiers, quel que soit leur sexe et leur rang de naissance. C'est très explicite. Alors, néanmoins, dans le droit, déjà, il y a un certain nombre d'outils. Hein, notamment, il y a une petite portion de la succession que la personne qui décède peut attribuer un peu comme elle veut, même si... On a un droit fiscal qui, par contre, incite énormément à transmettre aux enfants, hein, des consorts de la famille. C'est des droits de succession très, très élevés. Mais malgré ce droit, on observe des pratiques différenciées. Alors, ce qui est assez compliqué, c'est que si on observe des déclarations de succession, théoriquement, en valeur, toutes les parts valent la même chose. Le droit est respecté. Mais ce que savent bien faire les professionnels du droit et ce qu'ils nous racontent, c'est faire en sorte que quand, dans la famille, on veut conserver un bien, et ce bien, ça peut être une entreprise familiale,
une maison de famille,
un des biens qu'avec Céline Bessière, on appelle les biens structurants de la richesse familiale. Et si dans cette famille, on veut conserver ce bien en le transmettant à un seul des enfants, les professionnels du droit vont accompagner les familles, donc en particulier les notaires, hein, qui eux-mêmes peuvent hériter de leurs charges.
Ça veut dire que quoi ? Ça veut dire que c'est les professionnels, les notaires, qui forcent la main des familles ?
Ah non, ils ne forcent pas la main des familles. Ça, donc nous, ce qu'on constate, c'est que dans les familles, pour garder ces biens, voilà, on les transmet de façon, on va les transmettre à un héritier pour en conserver l'intégrité et éviter de vendre ces biens pour partager leur valeur.
Et on va privilégier plutôt les fils aînés aussi.
Et alors, ce que montrent aussi les données statistiques, hein, non seulement ce qu'on a vu sur le terrain, mais aussi les données statistiques, c'est que les transferts en biens professionnels, en biens immobiliers, ils vont plus souvent aux fils et en particulier aux premiers des fils, hein, ce qui était un peu surprenant de retrouver cet effet, voilà, de l'aînesse dans les données statistiques contemporaine. Nous, ce qu'on observe aussi, c'est comment, ça me semble important de le dire, hein, que c'est pas que ce qui se passe dans les familles, mais que les professionnels du droit, parce qu'eux-mêmes souvent viennent de familles dans lesquelles c'est important la transmission de ces biens structurants. Hein. Nous, on a rencontré une vingtaine de notaires. Parmi eux, il n'y en avait qu'une seule qui ne venait pas d'une famille d'indépendants. Il y en avait un certain nombre qui venaient de familles déjà de notaires.
Oui, de notaires, c'est souvent de génération, de père en fils, de père en fils.
Mais les autres venaient de familles de pharmaciens, de boulangers, de restaurateurs. Et donc, pour eux, il y avait quelque chose de naturel, en fait, à faciliter ce type de transmission, sans se rendre compte que pour tout le monde, assez naturellement aussi, celui qui est les bons héritiers, celui qui va être capable de transmettre et de conserver les biens, c'est un homme. Et il faut insister quand même sur le fait que c'est là aussi que joue la multiplicité des inégalités de genre. C'est-à-dire, pourquoi aussi les hommes apparaissent comme de si bons héritiers ? Parce qu'ils ont des carrières plus favorables. Pourquoi ? Parce que dans leur couple, ils laissent une partie du travail domestique à leurs épouses, mais aussi parce que sur le marché du travail, ils sont moins discriminés. Et là, on voit vraiment l'effet de toutes ces inégalités, ce qui se joue dans la famille, sur le marché du travail, parmi les professionnels du droit. Ils ne sont pas du tout formés à ces questions
de genre. Ouais. On va voir ce qu'il en est ailleurs. Nous sommes en ligne avec Betty Mystica. Bonjour.
Oui, bonjour, merci les voisines et les voisins, merci de me recevoir.
Vous êtes chef de la division des réseaux, des partenariats et l'égalité des genres au Centre de développement de l'OCDE. Alors vous nous écoutez, forcément le partage, la succession qui est privilégiée a priori dans de nombreux pays, hein, pas qu'en Tunisie, les garçons plutôt que les filles en France aussi. C'est une situation qu'on retrouve ailleurs.
Absolument. Oui. Nous, le résultat de notre rapport qui s'appelle le CIGI, qui regarde les institutions sociales et l'égalité du genre, montre que ces restrictions à l'autonomisation économique des femmes, donc qui inclut l'héritage, mais aussi être payé la même chose que les hommes pour travail de valeur égale, trouvent son origine dans les rôles traditionnels de genre et dans les valeurs patriarcales qui domine dans la plupart de nos sociétés. Et j'étais extrêmement intéressée et malheureusement peu surprise d'entendre les contributions précédentes, parce qu'on retrouve cela très fortement. Il y a trois choses principales qui amènent à ces discriminations, et notamment par rapport à l'héritage. Il y a d'abord ce que les gens pensent qui est acceptable, ce qu'on appelle les normes sociales discriminatoires. Notamment, plus de gens pensent dans un pays qu'il est normal que les hommes aient plus d'accès aux emplois quand ils sont rares, ou que les hommes héritent davantage que les femmes, ou qu'il n'est pas normal qu'une femme gagne plus que son mari, on retrouve cela dans la réalité. C'est comme si c'était une prophétie autoréalisatrice. Oui. En fait, ces normes sociales, elles sont très, très fortes. La moitié de la population mondiale, la moitié, pense que les hommes devraient avoir plus de droits à un emploi lorsque les emplois sont rares. Oui. Ce qui est quand même... Dans trois pays, Australie, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, où moins de 10% de la population pense que si une femme gagne plus d'argent que son mari, ça ne pose aucun problème, on retrouve une égalité salariale bien plus grande. Et pour revenir au reportage que j'ai trouvé absolument fantastique, qui prenait l'exemple de la Côte d'Ivoire, moi je voudrais ajouter une nuance. Le mariage ne protège pas, et l'institutionnalisation ne protège pas complètement, parce que la Côte d'Ivoire a modifié sa loi formelle sur les successions, qui protège maintenant le droit des conjoints survivants et des enfants pour hériter de la même façon. Mais comme c'est le cas dans d'autres pays comme en Égypte, les pratiques traditionnelles en matière d'héritage continuent d'exclure les femmes de l'héritage des terres. Et les données de notre étude montrent que dans les pays, notamment dans la région au Moyen-Orient, au Maghreb, où les gens pensent que les filles ne devraient pas avoir les mêmes droits que les fils pour hériter, le nombre de femmes propriétaires est plus faible. Donc, on retrouve dans la pratique ces inégalités. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, bien sûr, il faut s'attaquer à la loi formelle. Et ensuite, il faut s'attaquer, une fois qu'elle a été passée, à sa mise en œuvre. Sachant que les lois coutumières, tribales, religieuses sont très importantes, c'est le patrimoine commun. Donc il faut aussi faire connaître leurs droits à ces femmes, à ces enfants, mais travailler avec les communautés, oui, notamment les imams, les chefs religieux, pour aider à faire évoluer les mentalités. Donc ça prend extrêmement longtemps.
Travail de fond, culturel aussi, forcément. On parlait des successions, des héritages, on parle du mariage, le divorce aussi, les divorces. Automatiquement, ça contribue à l'appauvrissement des femmes, Sybille Golac.
Alors oui, puisque je l'ai dit tout à l'heure, hein, dans la vie conjugale hétérosexuée, il y a une spécialisation qui aboutit au fait que dans les couples de sexes différents, il y a 42% d'écart de revenus en moyenne entre femmes et hommes, par rapport aux 25% si on prend l'ensemble de la population, et 9% d'écart entre femmes et hommes célibataires. Alors même, c'est important de le dire, que cet écart-là que je mentionne pour la France, il correspond à une situation où aujourd'hui, dans la majorité des couples, les femmes sont plus diplômées que les hommes. Et pourtant, elles gagnent en moyenne 42% de moins. Donc, quand les gens se séparent, qu'est-ce qui se passe ? Bah, cet écart de revenus, il a un effet très fort sur le niveau de vie des femmes et des hommes. Et donc, on calcule que les femmes perdent en moyenne 20% de niveau de vie après la séparation, contre 2% pour les hommes. Donc, il y a un appauvrissement très fort des femmes. On le sait, la pauvreté des familles monoparentales, en France, c'est brandi comme un problème public, etc., sans s'interroger sur qu'est-ce qui fait cet appauvrissement. Parce que dans le droit, pour le coup, en France, même quand les couples ne sont pas mariés, il y a une possibilité de fixer une pension alimentaire pour la prise en charge des enfants. Quand les couples sont mariés, il y a le mécanisme de la prestation compensatoire qui est censé précisément compenser les inégalités qui sont creusées dans la vie de couple en raison de sacrifices professionnels d'un conjoint. Mais nous, ce qu'on constate, c'est que pareil, en enquêtant auprès des professionnels du droit, on se rend compte que, comme l'ensemble de la société, ils sont relativement aveugles à la valeur du travail domestique qui est fourni par les femmes. Et que du coup, les montants fixés de pensions alimentaires, de prestations compensatoires restent extrêmement faibles.
Et ça, cette valeur domestique qui n'est pas reconnue, là aussi c'est un constat mondial, Bathilde Misika.
Absolument. En moyenne, dans le monde, les femmes consacrent 2,5 fois plus de temps que les hommes à ce travail domestique non rémunéré. Mais ça va jusqu'à 9 fois, par exemple, dans les pays du Maghreb. Donc 9 fois. Ce qui veut dire qu'en termes d'autonomisation économique. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'on n'a même pas le temps d'avoir un emploi rémunéré et que même si on arrivait à libérer un tout petit peu de temps, par exemple, pour vendre son artisanat au marché, on n'a aucun capital. Parce que comme ça a été dit très justement par Sybille Gollack, et c'est le cas dans beaucoup de pays dans le monde, cet accès à l'héritage est très inégal. Donc vous vous retrouvez avec une maison qui n'est pas à votre nom, une terre qui n'est pas à votre nom, qui va vous prêter 1000 euros, 1000 dollars pour acheter une machine à coudre, du tissu pour pouvoir avoir une autonomisation et un revenu ? Ça devient extrêmement compliqué. Donc, si vous voulez, les inégalités, non seulement sont amplifiées au cours de la vie de la femme et dans l'institution du mariage, qu'elles soient formalisées ou pas, mais elles se reproduisent et elles se passent de génération en génération.
Malgré le fait qu'on dise qu'il y a des nouvelles générations qui seront plus ouvertes ou pas, avec un autre regard sur les inégalités de genre, Bathilde Misica.
Oui et non. Disons que oui ça, on voit que les jeunes, alors les jeunes femmes sont bien sûr beaucoup plus égalitaires, notamment que leurs équivalents masculins, mais on retrouve aussi une très forte endogénisation de ces normes sociales dans beaucoup de pays, oui. Notamment sur l'acceptation de la violence. Les femmes qui pensent qu'il est acceptable de se faire battre parce qu'elles n'ont pas obéi à leur mari, qu'elles sont sorties sans demander l'autorisation ou qu'elles veulent occuper un emploi rémunéré. Dans 22 pays des 180 pour lesquels nous avons des données, la loi oblige, elle oblige les femmes à obéir à leur mari et à lui demander la permission lorsqu'elles veulent travailler. C'est quand même, on est en 2024.
On a un message d'ailleurs d'une auditrice Linda de RDC qui nous dit « Ici, souvent, il faut que le mari donne son consentement à sa femme pour qu'elle travaille et devienne indépendante financièrement. Mon mari n'a jamais accepté que je travaille dans une quelconque institution et encore moins que j'entreprenne. » Ça ne bouge pas non plus avec les nouvelles générations, en tout cas ici, de familles européennes ou pas, Sybille Gollack.
En France, ce serait difficile de dire que les femmes peuvent être empêchées de travailler par leur conjoint en règle générale. Mais alors d'abord, une première remarque, c'est que moi-même, quand j'étais étudiante et qu'on m'a appris ce que c'était que la division sexuée du travail, que j'ai, on m'a montré les résultats de l'enquête emploi du temps, je me dis ah ça c'est des vieux résultats, tout ça est en train de changer. Je me retrouve 20 ans plus tard à raconter toujours cette même histoire. Donc les évolutions, elles sont très lentes. Et par ailleurs, il y a quand même un certain nombre de situations qui ont des conséquences dramatiques dans lesquelles, de fait, les conjoints interdisent à leurs femmes d'exercer leur profession. Hein. C'est ce qu'on appelle ou qu'on commence à appeler des violences économiques qui sont liées à des violences psychologiques et qui souvent débouchent sur des violences physiques et qui font aussi précisément que la dépendance économique qu'installe le conjoint rend très difficile pour les femmes d'échapper aux violences physiques. Donc le droit n'est pas tout. Hein. Il y a la Ruth Bader Ginsburg, là, qui était la deuxième femme juge à la Cour suprême des États-Unis, qui avait déclaré nous sommes parvenus à une loi égale, le combat ne fait que commencer. C'est vrai que le combat du droit, il est très important. Mais derrière, et c'est là qu'on se rend compte, c'est compliqué quand on touche à la famille, parce que c'est des relations qui sont perçues comme intimes. On considère que c'est normal de ne pas y intervenir, que les gens ont le droit hein, à cette sphère privée. Comment on fait pour la faire bouger ? Et là, la question de la formation, moi, je pense, des professionnels du droit, en France en tout cas, est très importante. Hein. Je disais tout à l'heure, les juges fixent des pensions alimentaires très basses et des prestations compensatoires très basses. Ces juges, ce sont aux trois quarts des femmes hein, dans les services aux affaires familiales. Donc la féminisation de ces institutions, de ces professions, elle ne suffit pas. Il y a une vraie prise de conscience nécessaire et dans les couples et chez ces professionnels du droit de qu'est-ce qui se passe en général dans cette division sexuée du travail et comment on peut essayer de parvenir à une plus grande égalité. Et voilà, j'entendais Bathilde Misica parler de traditionnel, mais en réalité... Voilà, ces pratiques, elles sont extrêmement variées dans le monde. Effectivement, il ne s'agit pas de tout mettre sur le même plan. Mais en réalité, les évolutions sont lentes. Le combat n'est pas gagné d'avance, y compris en France.
C'est votre avis aussi, Bathilde Misica. Le combat de la loi n'est pas suffisant. Intéressant aussi la responsabilité des professionnels de la loi aussi.
pense qu'il s'agit de... La responsabilité, pour moi, elle est vraiment à tous les niveaux. C'est-à-dire, oui, bien sûr, dans les exemples excellents qu'a donné Sybille Golac, sur notamment les professionnels du droit, mais je dirais que aussi du côté des parlementaires, il faut former les parlementaires, et notamment, on essaye d'appuyer une féminisation encore de la représentation politique en France, mais à travers le monde. Pour revenir un instant sur les lois informelles, nous, le CIGI, les documente, donc on est capable de faire la différence entre des règles coutumières, religieuses, traditionnelles, non écrites, mais elles régissent véritablement les aspects spécifiques de la communauté. Et donc là, la question vraiment peut-être la plus épineuse, c'est comment est-ce qu'on fait évoluer ces règles qui ne sont pas écrites,
c'est ça,
mais qui sont respectées de tous. Par exemple, le mariage des jeunes filles est illégal dans la plupart des pays, mais néanmoins, il persiste. Et qu'est-ce que ça veut dire sur l'autonomisation économique ? Si vous êtes marié à 14 ans, vous arrêtez sûrement l'école, donc vous n'avez pas acquis beaucoup de compétences. Donc imaginez ensuite, quand vous n'avez en plus pas accès à un capital parce que vous n'en hériterez pas ou très peu et que vous ne pouvez pas contracter un prêt bancaire parce que rien n'est à votre nom, voilà, on est dans des dynamiques qui sont quand même compliquées. Donc les choses évoluent, mais nous, ce qu'on voit à travers le dernier CIGI qui est paru, c'est qu'elles évoluent trop lentement et que, comme ça avait été dit aussi en début d'émission, on voit des reculs, c'est-à-dire ce n'est pas linéaire. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Il ne faut pas croire que les victoires, elles ne doivent pas cacher le fait que ça n'a échappé à personne. Aux États-Unis, c'est une tragédie ce qui est en train de se passer. Les droits des femmes sont en permanence menacés. Malheureusement, on est arrivé dans un contexte d'extrême polarisation où les hommes aussi pensent qu'ils sont les perdants. Mais véritablement, on voit un changement qui est lent et qui nécessite que tous les acteurs s'y mettent. Moi, j'en ai vu des acteurs formidables. Un imam en Côte d'Ivoire qui a une radio communautaire et qui prêche pour arrêter le mariage des jeunes filles et l'excision. Et il va voir d'autres leaders religieux, et il est très respecté. Et il dit, ce n'est pas dans l'islam, il ne faut pas lire les textes avec les yeux des morts, ce sont des droits fondamentaux. Et je pense que ce type d'acteur va avoir accès et permettre de transformer les croyances, les mentalités, d'une façon complémentaire à celle des parlementaires, du gouvernement, des ONG. Donc c'est un travail de village.
Ça
prend un village.
Un village planétaire, hein, la convergence.
Tout à fait.
C'est ça. Convergence de tous les acteurs, hein, ça c'est sûr. Dernière petite question, Sybille Golac, pour reprendre le titre de votre livre, comment la famille reproduit les inégalités ? J'imagine que dans les familles où vous êtes allée, je ne leur ai pas posé franchement cette question comme ça, mais est-ce qu'ils en ont conscience aussi de reproduire des inégalités comme dans le monde du travail ou ailleurs ou pas ?
Alors non, et même les personnes qui sont victimes d'injustice, hein, souvent les femmes au moment des héritages ou des séparations, elles n'en ont pas forcément conscience, parfois quand même elles le sentent, enfin, elles ont des discours compliqués parce qu'elles font même un travail sur elles en fait pour ne pas précisément rentrer en conflit, donc se cacher à elles-mêmes ces injustices que néanmoins elles ressentent. Et dans la réception qu'on a eue de notre ouvrage, quelque chose qui est à la fois émouvant et gratifiant pour nous, c'est d'entendre des femmes nous dire, voilà, je pensais que j'étais la chieuse, en gros. Je pensais que j'étais dans une famille spéciale, que c'était moi qui faisais une crise de parano, etc. Et à vous lire, je me rends compte que mon histoire, c'est celle d'abord d'autres femmes, et qu'en fait, ça s'inscrit dans des inégalités structurelles. De même que des professionnels du droit nous ont dit qu'avant, ils avaient l'impression, par exemple, les juges, de voir devant eux des séries de couples qui se disputaient pour des détails, etc. Et que maintenant, ils voyaient les enjeux, en fait, en termes d'inégalité de genre, de classe aussi. Hein, on n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais qui se jouaient devant eux. Et ça, voilà, on se dit, si notre livre, il permet aux gens de percevoir les enjeux de ces relations intimes, les enjeux, voilà, en termes d'autonomie financière des femmes, ben c'est déjà ça.
Voilà, comme quoi il faut plusieurs acteurs aussi, et les sociologues notamment. Merci beaucoup Sybille Golac, sociologue chercheuse au CNRS. Rappelle le titre, Le genre du capital, comment la famille reproduit les inégalités, aux éditions La Découverte Delcourt, avec la dessinatrice Jeanne Puchol. Merci aussi à vous, Betty Missika, d'avoir été avec nous. Merci pour vos éclairages.
Merci de m'avoir accueilli.
Merci, chef de la division des réseaux, des partenariats et l'égalité des genres au Centre de développement de l'OCDE. Merci à toutes les deux. Merci.
Merci beaucoup.
Allez, dans quelques instants, on va vous parler d'un mouvement néo-zélandais qui lutte contre les violences faites aux femmes, justement, on en parlait, mais cette fois-ci en misant sur la prévention auprès des hommes. Un sujet signé Charlie Dupio, c'est tout de suite après Carole G, Mi Ex Tenia Hassan sur RFI.
Contigo los días de playa me dan más calor. Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor. Cama me curaste todo lo que me dolía. Me pusiste a latir donde ya no me latía. A ti sí te creo cuando me dices mi amor. Mi ex tenía razón. Dijo que no iba a encontrar uno como él y me llegó uno mejor que me trata mejor. Mi ex tenía razón cuando dijo que nadie pa' que le digo que no, si me lo hace mejor. Todo me gusta al lado de ti, en la fila no me tratan como en Fendi. Soy un maquinón pero me tenían empty. Me sentía fea como Betty y ahora estoy pretty. En la disco bajándome la botella, amor. Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como es. De verdad no sé por qué carajo fue que lloré. Si ahora me que coroné contigo mi amor. Mi cama se lleva mejor. Ey, ya no extraño la vida que tenía. Cuando pienso en lo que decía, mi ex tenía razón. Dijo que no iba a encontrar uno como él y me llegó uno mejor que me trata mejor. Mi ex tenía razón cuando dijo que nadie me lo hará como él. Que le digo que no, si me lo hace mejor. Tenía razón cuando dijo que nadie me lo hará como él, porque le dijo que no.
C'était Carole G sur RFI. Lutter contre les violences faites aux femmes en misant sur la prévention auprès des hommes, c'est le pari du néo-zélandais Matt Brown qui a créé le mouvement She's Not Your Rehab. Rappelons d'ailleurs que là-bas, la Nouvelle-Zélande fait partie des pays où il y a le plus de violences dans l'OCDE. Alors pour tenter de prévenir ce fléau, Matt Brown et sa femme Sarah rencontrent les communautés. Notre reporter Charlie Dupio les a rencontrés à l'ambassade d'Australie à Paris.
I grew up with four brothers, so there was five of us boys and four girls.
J'ai grandi avec quatre frères. On était cinq garçons et quatre sœurs. À la maison, la violence était un sujet dont on ne parlait pas. On n'en parlait pas non plus dans notre quartier, mais cette violence était courante. J'ai vu mon père frapper ma mère continuellement pendant mon enfance, et quand ma mère trouvait le courage d'appeler la police, ce qui n'arrivait pas souvent, mon père était arrêté. Il a passé plusieurs séjours en prison quand j'étais enfant.
Et vous, en tant qu'enfant, est-ce que vous avez été victime aussi de violences ?
J'ai été victime déjà parce que je voyais mon père frapper ma mère. Et il nous frappait, nous aussi, les enfants. Ma mère s'est également mise à perpétrer des violences sur nous.
Alors moi, j'ai grandi sur la deuxième île principale de Nouvelle-Zélande, celle du Nord. J'ai été adoptée, je suis Maori, j'appartiens au peuple indigène de Nouvelle-Zélande. J'ai moi aussi subi de la violence et des maltraitances commis par mes parents adoptifs. Donc j'ai quitté la maison à l'âge de 15 ans. Et à partir de là, j'ai commencé à emprunter le chemin de la guérison. Un chemin qui m'a amené à vouloir changer ma vie et à rompre le cycle de mauvais traitements dont j'avais souffert.
Quand j'ai décidé d'ouvrir mon petit salon de coiffure pour hommes dans mon quartier, c'était simplement au départ parce que j'aimais la mode. À mesure qu'ils venaient fréquenter mon salon, ils se sont mis à me parler. Ils me racontaient leurs propres traumatismes d'enfance, eux qui avaient aussi grandi dans des environnements où la violence était fréquente. Ils me parlaient des abus sexuels dont ils avaient été victimes plus jeunes. Quand on va chez le coiffeur, chez le barbier, on se met à nu. On fait confiance à quelqu'un qui est censé nous rendre plus beaux. Et donc, à partir de là, moi qui suis leur coiffeur, j'ai pu créer une connexion avec eux, une relation.
Est-ce que parmi ces hommes qui se confient à vous, qui vous disaient avoir été victimes de violences dans l'enfance, est-ce que certains étaient aussi des auteurs de violences ?
Oui, ils pouvaient me dire qu'ils avaient eux-mêmes commis des violences. En fait, c'est d'abord moi qui commençais à aborder le sujet en parlant de mon propre cas. Je tiens aussi à leur dire que je suis fier de n'avoir jamais, jamais fait de mal physiquement à ma femme ou à mes enfants, ni à personne de ma famille. Et comme dès le début je me montrais vulnérable en partageant mon vécu, les hommes en face de moi se mettaient eux aussi à me raconter toute leur histoire.
Qu'est-ce qu'ils vous confiaient par exemple ?
Ils pouvaient me dire qu'ils frappaient leur femme, qu'ils exerçaient sur elle une forme de contrôle coercitif, qu'ils contrôlaient leurs finances par exemple. Mais moi je ne les décrirais jamais comme des auteurs de violences. Je dirais plutôt qu'ils commettent des violences. Je n'aime pas cette étiquette d'auteur de violences, à cause de mon père. Les gens ont toujours décrit mon père comme violent. Donc il croyait qu'il était violent et il agissait en fonction.
Alors Sarah Brown, vous qui êtes aussi maintenant engagée dans ce combat contre les violences en Nouvelle-Zélande, tous les deux, vous avez monté un programme qui s'appelle « She's not your rehab », qui veut dire en français « elle n'est pas ta cure de désintox, de désintoxication ». En quoi ça consiste ?
On fait ce travail officieusement depuis un moment. Matt s'y attelle depuis 15 ans dans son salon de barbier-coiffeur, mais en 2019, Matt a été invité à donner une conférence TEDx. C'est après cette conférence qu'on a décidé de lancer un site internet et de se rendre dans différents endroits du pays et de la planète pour continuer à parler de ce sujet de la violence avec des hommes.
Et donc, on a fermé le salon de coiffure il y a un an pour mener ce travail à temps plein. « She's not your rehab » vient du fait que j'ai vu ma mère être comme un centre de rééducation pour mon père. Ma mère croyait toujours qu'elle arriverait à sauver mon père de son mauvais comportement. Peut-être que si je lui cuisine plus de plats, il arrêtera d'être violent avec moi. Peut-être que si je ne lui réponds pas, il ne me fera plus mal. Et je disais souvent à ma mère, « Pourquoi tu te remets toujours avec lui ? La prochaine fois, peut-être, quand il te frappera, il te tuera. » Et ma mère disait toujours, « Mon fils, je n'ai pas d'autre option. » Elle ne croyait pas au divorce. Donc elle est devenue un centre de désintoxication pour mon père, en souhaitant vivement qu'il change. Mais ce jour n'est jamais arrivé. Aujourd'hui, nous sommes là pour dire aux hommes, certes, vos traumatismes d'enfance ne sont pas de votre faute, mais votre guérison relève de votre responsabilité maintenant. Personnellement, quand je parle avec des hommes, j'essaie de montrer à quoi peut ressembler une masculinité saine. Pendant nos ateliers, il nous arrive d'avoir nos enfants avec nous. Et quand je vais chercher ma fille, quand je prends mon fils dans les bras, quand je lui tiens la main et que je lui donne un bisou sur la joue, j'essaie de montrer un autre modèle, un modèle différent de celui avec lequel ces hommes ont grandi.
J'ai travaillé pour les lignes d'assistance téléphonique consacrées aux violences conjugales, que les gens peuvent appeler, qu'ils en soient témoins ou victimes. La majorité des appels sont passés par des femmes, mais quelques hommes appelaient aussi sur ce numéro. Certains me disaient, je me suis enfermée dans la salle de bain parce que j'étais sur le point de frapper ma femme et je ne veux pas en arriver là, mais je suis tellement en colère. Je ne sais pas comment réagir de manière appropriée. C'est pour ça que nous avons créé une application Inner Boy, le garçon en nous, pour aider les hommes à comprendre leurs propres émotions, parce que beaucoup d'hommes dans notre société ne connaissent pas bien leurs émotions. On leur a appris à ne jamais pleurer, à ne jamais rien exprimer.
On a un programme sur cette application qui s'appelle 30 minutes pour 30 jours. Chaque jour, les hommes qui consultent l'appli peuvent voir des vidéos dans lesquelles je parle d'un sujet différent à chaque fois. Ça peut être comment réguler ses émotions, ou bien comment pardonner. Quand les hommes parviennent à mieux identifier leurs émotions, ils peuvent respirer un coup et répondre de manière plus calme, au lieu de se dire « elle est énervée contre moi » ou « elle est en train d'essayer de me contrôler ». Non, elle n'est pas en train de tenter de te contrôler, elle te dit juste « non ».
On pourrait vous reprocher de vous adresser exclusivement ou essentiellement aux hommes. Est-ce que c'est une critique qu'on a pu vous faire ?
La raison pour laquelle on cible les hommes, c'est parce que les hommes sont largement, en termes de démographie, ceux qui commettent le plus de violences. Nous perdons des femmes de manière répétée chaque année. Elles meurent sous les coups portés par des hommes.
On ne peut pas continuer à laisser les hommes en dehors de cette conversation, parce que si on fait ça, il ne nous restera plus qu'à construire de nouvelles prisons pour ceux qui commettent des violences et à ouvrir d'autres refuges pour mettre en sécurité les femmes victimes.
Notre but, c'est d'essayer d'aider ces hommes à se réguler pour qu'ils arrêtent de tuer nos femmes et nos enfants. Et pour cela, je veux travailler avec ces hommes.
Lutter contre les violences faites aux femmes en misant sur la prévention auprès des hommes, un sujet signé Charlie Dupiot. 8 milliards de voisins et de voisines, c'est fini. Merci à toute l'équipe. Romain Dubrac, Juliette Brault, Delphine Cachin et Tom Malky. On se retrouve lundi à la même heure et on parlera du syndrome de l'imposteur. D'où vient ce sentiment de ne pas être à la hauteur ou d'être à sa place au boulot. D'ailleurs, c'est une majorité de femmes qui dit éprouver ce sentiment d'imposture. Bref, comment gagner confiance en soi ? Si vous êtes concerné par ce sujet, on attend vos témoignages au 33 7 64 45 51 41. Bon week-end à l'écoute de RFI.